Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le mercredi 19 juin, il est 8h30. Au programme de cette matinale, je suis allé à la rencontre de Marie. Elle est éleveuse de chèvres Angora du côté du pont de Montvert. On partira à sa rencontre dans quelques minutes. Et puis en deuxième partie d'émission, le dernier volet de la série des trois reportages sur le projet Marché depuis la nuit des temps, cette marche entre la grotte Chauvet et la grotte de Lascaux. Nous sommes trois radios avec fréquence 7, Antenne Doc et nous à avoir couvert ce trajet. Et bien là, ce sera le reportage d'Antenne Doc. La musique aujourd'hui, ce sera les Weird Girls. Vous êtes bien sûr Radio Barthas et on commence par un édito un peu spécial ce matin.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Ce matin, en guise d'édito, je vous passe le coup de gueule de Clément Viktorovitch. Clément Viktorovitch est politologue, maître de la sémantique et auteur français. Je n'aurais pas dit mieux.
Par contre, il y a un chiffre que j'ai besoin de commenter parce que celui-là, pour le coup, moi, me plonge dans vraiment le... Pas la déprime, la colère. C'est les 5,47% de Marion Maréchal et leurs 5 élus. Reconquête, c'est un parti fasciste. C'est un parti fasciste, ils veulent supprimer le contrôle de constitutionnalité des lois, ils veulent faire en sorte que la majorité élue au Parlement puisse opprimer les droits des minorités. Ils se sont déjà prononcés pour la déportation des étrangers, mais même des binationaux qui commettraient un crime ou un délit. C'est pas anticonstitutionnel, pour l'instant si. Mais si tu supprimes le contrôle de constitutionnalité des lois, bah ça peut être anticonstitutionnel, on s'en fout, puisqu'il n'y a plus de contrôle de constitutionnalité des lois. Éric Zemmour veut, pour les policiers qui feraient usage de leurs armes, une présomption de légitime défense. La liste d'Éric Zemmour, Reconquête, est un parti fasciste. La France a envoyé au Parlement européen 5 députés fascistes. Je vous rappelle que le calcul macroniste, c'était de faire monter la liste de Marion Maréchal pour tenter de faire diminuer le peu qu'il pouvait la liste de Jordan Bardella. Je vous rappelle que c'était leur calcul. Ça a été confirmé par des ministres en off, ça a même été confirmé par une députée Renaissance en in. Ça s'est vu notamment dans le débat de la honte entre Valérie Hayer et Marion Maréchal sur CNews. Ils devront en être comptables. Est-ce que vous avez vu Valérie Hayer aller débattre contre Marie Toussaint, qui a pourtant fait plus que Marion Maréchal? Non, je crois pas. Vous avez vu Valérie Hayer aller débattre avec François-Xavier Bellamy en tête-à-tête, alors qu'il finit quand même deux points au-dessus de Marion Maréchal? Non, je crois pas, j'ai pas vu. Vous avez vu Valérie Hayer aller débattre avec Manon Aubry, près de 10% des voix? Pas souvenir, non. Vous avez vu Valérie Hayer aller débattre avec Raphaël Glucksmann, 14% des voix? Je ne crois pas non plus. Mais elle a débattu avec Marion Maréchal, à la tête d'une liste fasciste, dans l'objectif assumé de faire monter la liste Marion Maréchal. Elle fait 5,47% des voix. La France envoie 5 députés fascistes au Parlement européen, en plus des 30 députés Rassemblement National, qui est un parti d'extrême droite à la tendance crypto-fasciste assumée. Bon, quel pourcentage de voix aurait fait Marion Maréchal si les macronistes n'avaient pas joué avec le feu? Nul ne le sait. Aurait-elle eu c'est 5%, peut-être bien. Qu'ont donné les sondages au lendemain du débat de la honte? En réalité, la liste de Marion Maréchal n'a pas vraiment bougé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est à quelques dizaines de milliers de voix de l'élimination. Et les macronistes ont joué à une danse coupable avec elle. Ils en portent la responsabilité, directement. Les deux seuls duels qu'aura consenti Valérie Hayer durant la campagne, c'est l'un contre Jordan Bardella, l'autre contre Marion Maréchal. Le seul duel qu'aura consenti Gabriel Attal pendant la campagne, c'est contre Jordan Bardella. Je l'ai dit, quel que soit le résultat, le macronisme est en train d'installer l'extrême droite comme la seule alternative crédible. Bizarrement, au soir des élections, c'est effectivement eux qui font le plus de voix. Ah bon ? Si la liste de Marion Maréchal faisait moins de 5%, c'en était fini déjà de Marion Maréchal elle-même. Éric Zemmour, si sa liste échouait à obtenir le moindre député aux élections européennes, devenait vraiment le loser, quoi. On est passé à 0,47% de se débarrasser d'eux. Cette élection vient de les relégitimer pour les 5 années qui viennent. En ce qui me concerne, je blâme le parti macroniste. Je blâme leur calcul électoral pourri. Je blâme leur vision politique court-termistes irresponsables. Leurs petits calculs boutiquiers qui visaient simplement même pas à gagner des voix, même pas à gagner des voix parce qu'ils s'en savaient incapables. Ils voyaient leur bateau prendre l'eau de toutes parts, ils voyaient leurs propositions être inaudibles et pour tenter de réduire l'écart qu'ils voyaient se creuser avec la liste de Jordan Bardella, ils ont joué avec le feu, ils ont passé un pacte avec le diable, ils ont donné de la visibilité à une liste explicitement fasciste. Résultat, ils ont leurs 15 points d'écart. Ils ont pris leur humiliation. Ils se sont ramassés la raclée historique qui se dessinait. Et ils ont envoyé des fascistes au Parlement européen. Je le répète, une liste qui veut organiser la déportation de citoyens français. Mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'il vous faut? Est-ce qu'il faut vraiment que le fascisme mette un t-shirt avec une croix gammée, un brassard rouge, un képi avec un aigle et une tête de mort pour que vous le reconnaissiez? Enfin, genre, c'est là, ça suffit pas? À titre personnel, je ne leur pardonnerai jamais.
Oui, bien sûr, il voulait dire jamais. Voilà pour ce coup de gueule, à vous de vous faire votre avis. C'est l'édito des Barthes et aujourd'hui c'était Clément Viktorovitch. Dans un instant, on part à la rencontre de Marie. On écoute d'abord les Wiggles, petit bonhomme.
Toi que j'ai connu à l'école, chevalier, cow-boy, justicier, bonhomme qui joue et qui rigole dans son bien-être journalier. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce chemin parcouru? Et qu'est-ce qui t'a fait devenir ce que tu es devenu? Y a eu ce coup de vent sur ton crâne qui a emporté tous tes cheveux, ce nouveau copain en terminale, puis ces deux flingues au fond de tes yeux. Deux ou trois échecs en amour, une sacrée bonne dose d'ennui, plus d'ignorance de jour en jour, et puis ces livres interdits. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce chemin parcouru? Et qu'est-ce qui t'a fait devenir ce que tu es devenu? Ce sont des petits morceaux de peur un peu partout disséminés, des petits fragments de frayeur qui finissent par s'assembler. Rien que des petits morceaux de peur que l'on t'a gentiment donné, des limailles, des copeaux de terreur qui paralysent la pensée. Et puis tu as suivi la horde, les chiens, les grenades, les canifs ont attisé ta notion de l'ordre et ton goût pour le punitif, le désir d'éliminer tout ce qui ne te ressemble pas. Mais ignorant ce que tu es, tu as buté n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce chemin parcouru? Et qu'est-ce qui t'a fait devenir ce que tu es devenu? Ce sont des petits morceaux de peur un peu partout éparpillés, des débris, des tessons de terreur qui t'incitent à ne pas changer. Rien que des petits morceaux de peur qui paralysent la pensée, des éclats, des débris de frayeur qui effacent une identité. Vivre ta vie à pile ou faf, ta pièce t'a rendu sa monnaie. C'est l'heure d'écrire ton épitaphe sous une croix qui n'est pas gammée. Y'a personne d'autre que moi sur terre, le jour de ton enterrement, à franchir la grille du cimetière. Vois, tous tes copains sont absents. Et maintenant, qu'est-ce qui fait qu'au jour où nous sommes, je ne suis qu'une maman qui pleure son petit bonhomme? Ce sont des petits morceaux de peur qu'à droite à gauche j'ai glané, des éclats, des débris de terreur. Tiens, je t'en ai fait un bouquet. Rien que des petits morceaux de peur qui paralysent la pensée, des petits fragments de terreur qui t'obligent à ne plus bouger. Rien que des petits morceaux de peur. Rien que des petits morceaux de peur. Rien que des petits morceaux de peur.
Bonjour Marie.
Bonjour.
On est chez toi, Dry Lane.
Oui, exactement.
Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous faire une petite carte postale de ce que c'est que Dry Lane?
Alors, moi, je suis Marie, je suis originaire de Normandie. Je suis en Lozère depuis 2007. Je suis venue pour faire une formation agricole à Supagro. Et j'ai toujours eu envie de travailler avec des animaux. Mais j'ai pas mal fait de choses très différentes qui n'avaient aucun rapport. Voilà. Mais bon, voilà, le parcours de vie fait que finalement, j'y suis arrivée, tant bien que mal. Et donc, ça fait 3 ans maintenant que j'ai des chèvres, 2 ans que je suis officiellement installée en tant qu'agricultrice auprès de la MSA. Enfin, voilà. Et alors, Dry Lane, c'est le nom que j'ai décidé de donner à mon travail, parce qu'en fait, les dry, c'est des chemins de transhumance. Et la laine, c'est parce que j'aime valoriser toutes les laines, pas que celles de mes chèvres angoras, qui, elles, fabriquent du mohair et non pas de la laine. La laine, c'est vraiment pour les brebis. Mais voilà, j'ai à cœur de travailler avec d'autres gens au niveau local, donc notamment Régis qui a des alpagas, des éleveurs de brebis mérinos un peu plus loin dans le Gard. Et pourquoi pas un jour des lapins angora, enfin voilà, je sais pas trop, mais voilà, c'est laine, c'est pour le côté multiple.
Alors, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi quand tu as monté cette aventure? D'ailleurs, est-ce que c'était un pari fou à ce moment-là? Tu t'es dit, j'y arriverai jamais, ou alors...
Mais je me le dis encore, que j'y arriverai jamais, tous les jours.
Alors, qu'est-ce qui a été le plus...
En fait, je devais... Enfin bon, voilà, ça a toujours été un peu un rêve, un fantasme d'avoir des petites chèvres dans la montagne. J'ai beaucoup regardé Manon des Sources avant. Et après, la réalité, bah, c'est que pour faire de l'élevage, il faut du terrain. Donc voilà, soit on a des fonds nécessaires pour racheter une entreprise agricole, quelqu'un qui part à la retraite et qui cède ses bâtiments, ses terres et voilà, et ce que je n'avais pas. Soit on a d'autres possibilités et donc j'ai essayé de m'associer en GEC avec un éleveur au Brac dans le coin. Donc on a travaillé pendant 1 an et demi ensemble, 1 an et demi, presque 2 ans. On a eu pas mal de difficultés, comme toute association, hein, forcément, c'est pas évident. On n'a pas réussi à tout démêler. Donc, je suis repartie.
Ouais, mais parce que démêler la laine, c'est jamais évident.
Non, déjà, c'est hyper dur quand tu fais le tri de la laine. Mais voilà. Et démêler les relations humaines, c'est pas forcément évident non plus. Et il y avait beaucoup de différences. Enfin, c'était pas forcément équilibré dans les rapports entre quelqu'un qui a beaucoup de terres, qui a beaucoup de connaissances, que moi je n'en avais pas du tout, hein. Je suis pas issue du monde agricole et j'ai pas fait de formation vraiment agricole. Donc voilà, ça mettait quand même beaucoup d'obstacles sur notre parcours et on a tenté, hein, l'un comme l'autre, parce qu'on avait envie, mais on n'a pas réussi. Alors bon, c'est comme ça, l'histoire s'écrit comme ça et voilà. Donc en 2022, on a arrêté ce projet de GAEC et je me suis installée toute seule. Mais je me suis installée toute seule, avec des animaux, mais toujours sans ça, parce que j'avais pas résolu mon problème de terrain et de bâtiment et tout. Donc j'ai mes voisins qui m'ont filé un coup de main et qui continuent à me filer un coup de main parce qu'ils me mettent un bâtiment à disposition. Donc ça, c'est super chouette. Et les propriétaires de la maison dans laquelle je suis en location ont une parcelle autour qui m'ont aussi, pareil, mis à disposition. Mais c'est pas vraiment suffisant. Donc en fait, petit à petit, j'ai réussi à trouver des gens qui ont bien voulu me laisser du terrain. Donc des gens qui sont pas du tout du monde agricole et d'autres personnes, toujours comme Régis, hein, qui a des alpagas à Racoul, qui m'a laissé des terres. Et ça, c'est super chouette. Voilà.
Alors aujourd'hui, tu as un troupeau de combien
d'êtres? J'ai 50 chèvres.
Et donc, en termes de quantité de laine que ça produit par... C'est quoi, c'est par an ou...
C'est par an. Il y a 2 tombes par an. Et en moyenne, on va dire que c'est aux alentours de 3 kilos, 4 kilos par animal. Enfin, si on compte les petits, on va plutôt dire 3 en moyenne, du coup. Et donc, ça me fait à peu près 150 kilos de laine par an.
Comment ça se passe justement pour la tonte? Tu fais appel à des personnes spécialisées? Est-ce que c'est fait... on parle d'éthique, hein, justement. Comment ça se passe?
Alors, c'est... jusqu'à présent, c'était une personne, Laura, une tondeuse, qui venait me tondre les chèvres que j'avais rencontrées avant de m'installer, même, justement, à un chantier de tonte. Et puis là, elle a arrêté. Donc maintenant, c'est 2 autres tondeurs qui sont plus habitués aux brebis. Et ça fait 2 fois... Donc l'été dernier et cet hiver où ils sont venus avec Laura pour se former sur la tonte des chèvres angora. Et la semaine prochaine, là, ils viennent en solo, quoi.
On peut avoir leur prénom.
Et bah, leur prénom, c'est Pépé et Julien.
Voilà. Qu'on salue, évidemment. Salut Pépé et Julien. Je me doutais un petit peu que c'était, puisque c'est vrai qu'ils font ça beaucoup dans la région et c'est très bien. Alors, après, une fois que les chèvres sont tondues, comment ça se passe pour la transformation, justement?
Alors, déjà, elles sont tondues deux fois par an, oui. À la différence de plein d'autres animaux qui, eux, sont tondus plutôt une fois par an.
C'est la spécificité des angoras.
Et oui, parce qu'en fait, la fibre, elle pousse quand même assez vite, à peu près 2 cm par mois. Donc, au bout de 12 mois, on a une fibre qui est aux alentours de 12 cm. Et donc en général, on fait ça une fois en hiver, une fois en été. Bon, ça c'est par rapport aux dates d'apport, parce qu'on a un collectif d'éleveurs. Et en fait, une fois tondu, on trie notre laine, chacun chez nous, suivant différentes catégories, de la plus fine à la plus épaisse, on va dire. Parce que chaque catégorie de laine a... un aspect spécifique, mais permet d'être valorisé. En fait, il n'y a rien qui est jeté. Et du coup, donc voilà, on fait différents lots de laine et on apporte notre laine en mars et en septembre à Castres. Et on le fait de façon collective parce que ça nous permet forcément d'avoir des coûts de transformation qui sont moins chers. Et en plus, c'est géré d'une façon uniforme et c'est beaucoup plus simple aussi dans les rapports avec les transformateurs.
Quand tu dis uniforme, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais un peu de fil à part. Et c'est moi qui dois m'occuper d'aller faire laver ma laine à tel endroit, de la récupérer, après de l'envoyer à la filature. Etc. Là, tout est fait. On amène notre laine triée et après, toutes les étapes du lavage jusqu'au retour en fil, tout est fait collectivement. Donc, il y a une seule personne qui gère ça. Quoi.
Et après, je suppose qu'il y a l'étape de la teinture. Comment ça se passe?
Alors, il y a deux choses différentes. Il y a la partie transformation pour faire des produits finis, donc des bonnets, des écharpes, des pulls, tout ça. Donc là, je travaille avec le collectif d'éleveurs. Donc là, il y a le lavage, le cardage, la transformation en fil, l'étape de teinture, puis l'étape de tricotage. Après ça, je récupère mes articles. Et il y a une autre partie où je demande que le fil. Mmh. Donc, je récupère mon fil en forme de cône non teint. Et là, après, moi, je fais de la teinture végétale sur le fil. Et puis, il y a une dernière partie où là, je garde une partie de ma laine. Et je fais transformer avec Régis, donc les alpagas, et avec un autre éleveur de brebis mérinos, où là, on mélange nos laines, et pareil, on fait un fil à tricoter, on fait de la teinture végétale derrière.
Alors justement, moi je suis novice, et je n'y connais rien, c'est quoi de la teinture végétale?
Alors là, en fait, nos vêtements. comment nos vêtements ont des couleurs? C'est de la teinture chimique. Donc c'est issu quand même du pétrole. C'est pas très sain ni pour l'environnement ni pour notre santé parce qu'on porte ça à même la peau toute la journée. La teinture végétale, c'est donc des végétaux qui sont soit produits localement, soit qui viennent de plus loin et que j'achète à un fournisseur en France, en Bretagne, qui est un maître des couleurs, Michel Garcia, grand teinturier. Mais du coup, la teinture végétale, c'est un peu plus long comme procédé, par contre. Il y a l'extraction de la couleur, la teinture à proprement parler, le mordansage pour faire bien tenir la couleur sur le fil. Et voilà, et c'est plusieurs étapes.
Et oui, pour pas que ça déteigne au lavage, par exemple.
Oui, alors après, il y a des teintures qui sont considérées comme grand teint, d'autres comme petit teint. Donc, il y a des teintures beaucoup plus solides que d'autres. On peut teindre avec plein de choses, mais il y a des choses qui sont très fugaces aussi. Mais bon, c'est un peu... un peu petit côté magique aussi.
Est-ce que justement, parce qu'on comprend que le procédé est quand même assez long, hein, pour que ça parte de la chèvre jusqu'à ce que ça devienne ce fil à tricoter, donc tout ça représente un coût. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va, t'arrives à en vivre, est-ce que ça commence à aller ou c'est encore compliqué?
C'est encore compliqué, j'ai un autre boulot à côté, je fais le transport scolaire à l'école du Pont de Montvert. C'est compliqué parce que ouais, c'est des grosses charges au niveau transformation, que c'est pas possible de le gérer seul en fait, parce que 150 kilos de laine c'est énorme et qu'en plus c'est un autre boulot. Enfin voilà, c'est des savoir-faire, c'est aussi des machines. Et... Donc oui, il y a beaucoup de frais autour. Je suis à l'équilibre.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Justement, bon, je ne peux pas passer à côté de cette question. Le loup a été, enfin pas découvert, mais en tout cas des traces de loup. Et le loup est en Lozère. Est-ce que ça te fait peur, toi, ou est-ce que finalement, avec 50 têtes de bétail, ça va aller, tu peux gérer cette crainte et ce stress peut-être?
Non, en plus on est bien en zone. Enfin voilà, on a. Comment dire, le berger qui est derrière chez nous, là, à l'eau barrée, il a quand même énormément de prédation tous les étés sur le troupeau qu'il garde. Comment dire. C'est un peu. J'ai pas envie d'avoir forcément de la prédation comme n'importe quel éleveur. J'essaye de faire en sorte. De pas être impacté en essayant de en les enfermant la nuit, mais bon ça c'est parce que j'en ai un peu la possibilité. Après là quand je les mets les terres à coule, j'en ai pas spécialement la possibilité. De toute façon c'est soit on les garde enfermés en permanence et on les nourrit toute l'année au foin, soit elles sont dehors, soit il y a plus de loups et ça c'est pas non plus spécialement possible. Donc
tu composes en tout cas.
On n'a pas trop le choix. Après, le jour où j'aurai une attaque sur mon troupeau, que ça soit un loup ou un chien ou quoi que ce soit, je serai dégoûtée et je serai en colère. Et bon, contre un chien, il y a un propriétaire. On peut se retourner contre loup, c'est différent. Enfin, j'ai pas envie. Voilà. Comme n'importe qui, j'ai pas envie d'avoir de la prédation. Après, il est là.
Parlons un peu du caractère de tes chèvres. Est-ce qu'elles ont chacun un caractère? Est-ce que c'est un peu rigolo? Il y a plein d'agriculteurs, agricultrices qui me disent « Ah, celle-là, elle est cabotine. Celle-là, elle est espiègle. » Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que tu remarques des choses comme ça? Ou alors...
Oui. De toute façon, je pense qu'à partir de... Enfin, chaque être vivant a son caractère et ses spécificités. Quand on ne connaît pas... quand on est juste de passage, on va voir un espèce de troupeau, une masse... Et puis il suffit de passer un peu de temps avec ces animaux et voir que chacun a son caractère. Il y a les chieurs, il y a les sympas, il y a les timides, il y a les complètement siphonnés. Et puis c'est souvent ça se transmet. Voilà. La mère un peu craintive, forcément, elle va transmettre ça dans son comportement à son petit.
Parlons-en, toi, la reproduction, comment ça se passe ici?
Moi, j'ai un bouc que je vais changer cette année, d'ailleurs, que je vais revendre pour en acheter un autre. Donc j'ai mon bouc qui saillit, un petit lot de femelles. Je ne fais pas beaucoup de reproduction. En général, je les fais saillir une année sur deux. Parce que ça a quand même pas mal d'impact sur la pousse de la fibre, ce qui est normal, c'est quand même, ça demande beaucoup d'énergie pour faire pousser de la fibre et autant d'énergie pour élever un chevreau. Ils ne sont pas sevrés en plus, ils restent avec leur mère jusqu'à ce qu'ils se sèvrent naturellement. Donc voilà, les saillies c'est en octobre, les mises bas au printemps.
Génial, c'est passionnant comme monde quand même. Tes produits, on peut les retrouver où? Comment ça se passe?
Alors, on peut les retrouver bientôt dans une boutique éphémère au Pont de Montvert. Voilà, c'est une grande nouveauté. On est 5 producteurs artisans à avoir eu cette idée. Et donc, juillet-août, au Pont de Montvert, il y aura notre boutique ouverte tous les jours. Donc, il y a du cuir, du bois, de la laine et du tissage. Et puis, sur mon site internet, j'ai un site qui s'appelle drylaine.com. Voilà, c'est assez facile. Il y a tous les produits, le fil à tricoter, les articles déjà à tricoter. Et après, je fais des salons spécifiques, donc loin pour le fil à tricoter. et tous les marchés de Noël que je peux faire dans le coin.
Forcément. Et justement, ça va fonctionner comme pourrait fonctionner une boutique paysanne, c'est-à-dire que vous allez vous relayer dans cette boutique, ça va être ce fonctionnement-là.
Ouais, c'est ça, on va faire des permanences, donc on a défini un nombre de jours chacun, et voilà. Pour l'instant, on a encore à monter les étagères et refaire l'électricité du local, et voilà.
Alors, constituer un peu, ce sera où au pont Montvert ?
C'est dans la Grand Rue. La Grand Rue, qui est une petite rue piétonne, qui est un local où il y a eu une pharmacie, une librairie, et voilà, qui était déjà un commerce auparavant. Donc, jolie petite rue passante, juste derrière les commerces qui sont situés sur le quai.
Génial. Et ça, vous louez aussi les deux mois,
hein. Mmh. On loue, ouais.
Les frais en plus, je crois.
Oui, voilà. Bon, on a un loyer fait par la mairie. C'est un local de la mairie. On aurait bien aimé que ça dure plus longtemps, parce qu'effectivement, nous, notre boutique, notre objectif, c'est d'avoir une boutique qui soit ouverte tout au long de l'année, pour valoriser l'artisanat local, mais pour dynamiser le territoire aussi. Pour l'instant, on n'a pu l'avoir que pour 2 mois. On espère, on est né à la recherche d'un autre local, d'ailleurs au pont de Montvert aussi, pour pouvoir continuer ce projet. Et en même temps, c'est une façon de nous tester un peu, voilà, pour 2 mois, donc ça c'est chouette. Et voilà.
Alors, tu as lancé une campagne de financement participatif. À quoi ça va servir ?
Alors, l'idée de ce financement participatif, c'est justement parce que sur ce terrain que j'ai récupéré à Racoul, où je mets les chèvres en été depuis l'année dernière, il n'y a pas d'abri. Et donc, elles sont soumises aux intempéries s'il y a. Bon, orage l'été, ça peut passer, mais quand même. À de la prédation. L'année dernière, j'ai un petit qui s'est fait, je pense, attraper par un renard. Et aussi, pour plein d'autres raisons, soigner des bêtes, c'est plus facile si on peut les contenir dans un endroit fermé. Enfin, voilà. Et en plus, c'est un endroit où j'aimerais pouvoir y laisser les mâles l'hiver. Donc, du coup, là, à partir du moment où c'est octobre-novembre, c'est bien d'avoir quand même un abri pour la pluie, pour le froid. Donc, c'est pour m'aider à construire cet abri, à l'aménager, stocker l'eau, stocker du grain, avoir des panneaux solaires pour avoir un minimum d'électricité quand même en hiver, et puis refaire une clôture quand même assez haute, pour les problèmes de prédation.
Il y a toujours une espèce de contrepartie, hein, quand quelqu'un donne. On donne, je crois qu'en général, c'est entre 5 et après, ça peut monter. Quelles sont les contreparties, toi, que tu proposes ?
Alors, il y a des contreparties, il y a des dons sans contrepartie, et puis il y a des dons avec contrepartie. Donc, c'est soit du fil à tricoter, pour les fans de tricot, soit des articles de ma boutique. Donc, ce qui marche super bien, c'est quand même la paire de chaussettes, qui est hyper... hyper connu, hyper apprécié, voilà, les bonnets, les gants, des plaids aussi, le parrainage de chevreaux avec des nouvelles tout au long de l'année, et puis aussi des dons sans contrepartie. Voilà.
On la retrouve où, ce crowdfunding ?
Alors c'est sur la plateforme Mimosa, parce qu'ils sont spécialisés dans tout ce qui est domaine agricole et alimentaire. Et donc voilà, Mimosa, et c'est un abri pour les chèvres, et c'est Marie Kalberg.
Je mettrai évidemment les liens sur notre site tout à l'heure. Et je me posais, donc tu parlais des soins, etc. Comment ça se passe au niveau vétérinaire ici ? Est-ce que c'est simple ? Parce qu'on est dans un désert médical. Est-ce que ça se passe pareil pour les vétos ? Parce que je suppose que des fois, tu dois faire appel à un véto.
Le vétérinaire... Bon, une chèvre, c'est pas comme une vache. Hein. Une chèvre, on peut le mettre dans le coffre de la voiture et si besoin, l'emmener chez le vétérinaire. Après, quand il y a des prises de sang sur tout le troupeau, le vétérinaire se déplace. Il y a des visites sanitaires une fois par an. Et puis, il y a beaucoup de coups de fil aussi avec des conseils... Et voilà, et moi j'ai fait des formations aussi avec la Chambre d'agriculture en homéopathie, parce que c'est super intéressant. Et puis j'essaye aussi au maximum de faire plus de la prévention que du soin. Là, je sais qu'après la tonte, je vais pouvoir les badigeonner de répulsifs aux huiles essentielles pour tout ce qui est tiques et parasites externes ou quoi que ce soit. Voilà. Je crois qu'il faut pas mal jouer avec ce qu'on a aussi dans la nature. Et après, bah, y a des problèmes qui ne sont pas solvables, solvables par ces moyens. Donc voilà, après, y a de la chimie.
C'est sûr. Merci beaucoup, Marie.
Mais de rien, Ben.
Et puis à la prochaine, c'était passionnant.
Super.
Sur un banc de regarder goguenards vivre entre les enfants. Dans les squares, c'est fandard, les gamelles à vélo, les nounous blagues d'Afrique noire et leurs petits blonds dans le dos.
C'est cool, même si le temps s'écoule. C'est cool, c'est cool.
Dans les squares, y'a des rancards, des habitués du troisième âge, des amants qui se séparent, des espions qui s'échangent des messages. Dans les squares, y'a des sonards, des travelots, des wesh, des des canards, des moineaux, des pigeons.
Roucoule, roucoule, même si le temps s'écoule. Roucoule, roucoule.
Dans les squares, c'est le panard de croiser les mamans sans être pris pour un gros vicelard, comme on est tous parents. Dans les squares, c'est bonnard de jouer au chat, de jouer au loup, de courir hilar au milieu des mecs qui jouent.
Roucoule, roucoule, même si le temps s'écoule.
Les malabars se gonflent dans le vent. Y'a des bars, carambars qui pètent des petites dents. Dans les squares, y'a des guitares qui jouent du brassins. C'est sur les pelouses, on peut voir des pelotages de uns et des patins.
Qui se roulent, même si le temps s'écoule. Qui se roulent, c'est cool, même si le temps s'écoule. C'est cool, c'est cool.
J'ai à peine eu le temps de m'asseoir pour décompresser qu'une petite tête de lapin prend mon fils pour un marchepied. C'est tant pis pour le square, on n'a plus qu'à rentrer. Tiens, prends ce petit mouchoir en papier pour essuyer ton petit nez.
Qui coule, même si le temps s'écoule. Qui coule, c'est cool, même si le temps s'écoule. C'est cool, c'est cool.
Voilà le troisième opus de la série de reportages marché depuis la nuit des temps, un itinéraire pédestre sur le thème de l'imagination et de la créativité, des origines à nos jours entre la grotte Chauvet et en Ardèche, et la grotte de Lascaux en Dordogne. Ils sont passés par la Lozère, c'était il y a une quinzaine de jours, et sur la route, trois radios, fréquence 7, Radio Barthas et enfin Antenne Doc. C'est cette dernière qui a réalisé ce dernier épisode, on écoute ça.
Marcher depuis la nuit des temps, une fabrique du sensible entre Chauvet et Lascaux. Une série de reportages réalisés par Fréquence 7 à Aubenas, Radio Barthas à Florac et Antenne Doc à Figeac.
Dans cette fabrique du sensible, portée par une marche créative et profonde, des songes et des rires se mêlent. Le processus de création se perpétue et se renouvelle toutes les semaines. Chaque semaine s'achève par un temps fort. C'est un moment unique inscrit dans le partage où les marcheurs restituent ce qu'ils ont vécu. Glissons-nous dans cet instant où l'intime et le festif se côtoient.
Donc moi, je m'appelle Pauline Oa, je suis cofondatrice de Monique Lézard, qui est à la base une compagnie de rue qu'on a montée avec Georges Matichard il y a une quinzaine d'années. et qui s'attelle vraiment à travailler sur les questions de l'imaginaire, de l'imagination, à travers des spectacles, mais pas que, des rencontres et du tissage de liens entre les gens. Ce qu'on aimerait bien créer, c'est ce centre de recherche itinérant et pédestre autour de l'imagination, de la créativité, de l'inspiration, de proposer en fait ces moments qu'on a peu, que ce soit dans le domaine scientifique ou artistique, c'est ces moments d'inspiration qui précèdent les moments de création, de production, de réalisation. C'est ces petits moments qui nous font justement entrer dans un projet, entrer dans l'intime aussi. Et on s'est dit qu'avec le dispositif de la marche, ben la marche, ça permet à tout le monde de développer sa créativité et aussi de développer des rencontres sur le chemin. Il y a une idée de cheminement, là, il y a une idée entre Chauvet et Lascaux, il y a une idée d'exploration, il y a une idée d'intime aussi, parce que la marche, ça permet de se recentrer, ça permet à des moments d'être avec d'autres, mais à plein de moments aussi de ressentir sa propre respiration, son rapport au vivant, son rapport à soi-même, son rapport à ses idées, et que ces moments de marche qui se perpétuent, à notre avis, c'est un dispositif qui permet d'être dans le vivant, en fait, qui permet de se sortir un peu de tous les carcans ou du laboratoire ou de l'atelier ou de la classe et d'expérimenter par soi-même, en fait, ce que ça veut dire penser, réfléchir, imaginer, sentir. C'est un dispositif qui permet d'être dans le vivant, en fait, qui permet de se sortir un peu de tous les carcans ou du laboratoire ou de l'atelier ou de la classe et d'expérimenter par soi-même en fait ce que ça veut dire penser, réfléchir, imaginer, sentir.
Et en fait, ça fait 5 ans que je travaille sur différents territoires autour des plantes sauvages comestibles, de la cueillette et du lien entre les humains et les plantes d'un paysage. Et que donc, avec différents acolytes, on crée des formats de banquets ou de dégustations qui sont inspirés par des territoires et par des événements culturels. Pendant cette semaine, j'ai eu la chance de marcher avec un préhistorien, archéologue, géologue et une artiste plasticienne. Et donc finalement, mon attention était beaucoup plus portée sur les conversations et les échanges, tissages qu'on a pu avoir entre nos différents regards. Et j'ai été happée par comment est-ce que nos regards se nourrissaient les uns les autres.
Alors là, on est dans 2 années expérimentales du projet. Donc 2023-2024, avec 3 marcheurs chaque semaine. Et l'idée, c'était de panacher donc des chercheurs. Encore une fois, la notion de chercheur, on l'explose. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des chercheurs reconnus, des artistes, des scientifiques, mais pas que, ce sont des curieux, ce sont des gens en fait, qui se questionnent sur leur propre pratique, sur leur propre discipline, qui croisent les regards et qui permettent aussi d'inventer le monde de demain par leurs réalisations, leurs idées, etc. Et tout ça, on se dit que de sortir de l'entre-soi et de croiser des regards de scientifiques, de paysans, d'artisans, d'artistes, ça permet justement un foisonnement d'idées qui, à notre avis, est nécessaire, et aussi d'intégrer la jeunesse à tout ça. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop développé là, mais en proposant des ateliers de médiation avec des enfants, de les sortir des 4 murs de l'école ou des 4 murs du mercredi après-midi du centre de loisirs, et de les faire marcher eux-mêmes pour éprouver eux-mêmes le sensible et ce que ça crée de marcher avec d'autres.
On s'est arrêté pour donc la pratique d'Agnès, qui est de dessiner sur des aspérités. Et donc dans ces moments-là, moi j'ai beaucoup écrit en les observant, en notant ce que j'avais retenu de nos conversations. Le jour du départ, Georges, qui fait partie de l'organisation de marché depuis la nuit des temps, nous a rappelé que chaque pas signifiait 7 ans. Si on prend le temps qui sépare la grotte Chauvet de la grotte Lascaux. Donc avec chaque pas, on avançait de 7 ans dans cette histoire-là. En tout cas, ça m'a donné une sensation d'immensité et d'infinité. Et j'ai retrouvé cette sensation quand on était dans la grotte de Pechmerle, où j'imaginais ces personnes avec leurs lampes restreintes. Et que donc la personne avançait et pouvait avoir cette sensation d'infinité dans la grotte, puisque la lumière ne lui indiquait pas, comme aujourd'hui les spots lumineux nous l'indiquent, que c'était la fin de la grotte. Donc voilà, cette même immensité que j'ai retrouvée dans la grotte de Pechmerle hier. Et donc, on avait plutôt cette perception très aiguisée des formes et des choses. Et comme je disais, les écorces étaient vraiment très présentes. Enfin, c'est comme si on lisait les signes. Et donc, on commençait à avoir des yeux. Et mes acolytes étaient aussi particulièrement regardants là-dessus. Et donc, une fois arrivés dans la grotte de Pechmerle, bien qu'il y ait tout ce dispositif touristique et des visites limitées dans le temps et tout ça, on a demandé à ce que notre visite soit plus axé sur le silence et qu'on puisse plutôt poser des questions sur des choses très spécifiques pour être à l'affût des formes et être guidé par notre regard. Et donc c'est ce qui s'est passé et j'ai senti peut-être qu'on avait la chance d'aller au-delà d'entrer par un autre chemin que le dispositif qui est créé aujourd'hui et d'entrer plus par les sensations et de pouvoir être pénétré par les formes qui nous entourent.
L'idée, à la base, c'est qu'il n'y ait pas de production. Sauf que là, on est évidemment sur deux phases expérimentales, donc on a besoin quand même qu'ils nous livrent des choses pour pouvoir continuer à avancer. Donc il y a des traces, et ces traces, elles se font soit sous la forme orale, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les temps forts, du partage avec des gens, du partage de l'intime. Donc il y a de l'oralité, il y a du dessin, il y a de la photographie, il y a de la collecte, il y a du partage de tisane, il y a du partage d'expérience. Voilà, tout ça, ça fait partie d'un tout. Il y a des choses qu'on a pu regrouper dans une revue l'année dernière, donc la revue Marché depuis la nuit des temps 2023, dans laquelle on a combiné tout un tas de traces a posteriori de ces différents marcheurs. Donc il y a tout un corpus littéraire, scientifique, graphique, poétique, onirique, qu'on a mis là sur cette revue. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a beaucoup de traces aussi qui sont peut-être moins tangibles, mais qui se ressentent lors des rencontres des temps forts.
Pour ma part, j'avais un grave problème parce que ça fait plusieurs mois que je suis au courant que je vais participer à cette marche. Or, moi, Chauvet, Lascaux, c'est mon boulot. Donc, c'était une vraie difficulté de m'en extraire pour récupérer le regard d'enfant. Et du coup, j'ai fait un travail de plonger dans mes propres abîmes inconscients. Et j'arrivais vraiment à rien produire dans ma tête. Mais c'était une erreur de vouloir produire quelque chose avant. Et en partant, en venant ici, j'ai empoigné un bloc de silex quand même. Une idée m'est arrivée tout de suite, comme ça, boum, au lieu de creuser dans les sols comme je fais d'habitude et de faire des stratigraphies verticales, d'établir la chronologie des couches, j'ai choisi d'établir une stratigraphie horizontale parce que j'allais marcher. Et cette stratigraphie, je voulais me décoller complètement de l'aspect scientifique classique qui est le mien, mais qu'elle soit parfaitement onirique. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, tel que mon métier me le propose tous les jours, je me suis muni de sacs. On passe notre vie à ouvrir des sacs, mettre des choses dedans, et puis à ouvrir des sacs, sortir des choses, c'est notre existence. En fait, le sol des préhistoriques, on ne l'appréhende jamais vraiment. On étudie les sols anciens, mais on ne voit pas qu'ils marchaient sur des sols. On a l'impression qu'ils étaient dans l'air, parce que les sols ne sont jamais représentés dans les grottes, etc. Donc, ils étaient flottants là. J'ai voulu reprendre le contact avec eux en grattant avec un silex. Donc, j'ai extrait 19 affleurements de sol, comme ça, au gré du chemin, qui là sont disposés là où ils ont été récupérés. Donc, j'ai posé une carte là sur la table qui représente une partie de notre chemin. Ces affleurements, je ne les ai pas du tout choisis en fonction de la géologie, qui est mon métier, mais en fonction d'événements oniriques propres, des rencontres, des chocs, des trucs. Donc ils ont des noms qui ne parleraient à personne. En fait, ils s'appellent par exemple Venise, Tasmanie, la vache qui sourd, le spectre vert, l'eau qui brille, le rêve têta, les lièvres panoramiques, le moulin qui n'existait pas. On s'est dit aussi que les terres, on pourrait peut-être les sentir, vous les faire sentir, il n'y a pas que les caractériser. De fil en aiguille, c'est venu qu'on pourrait faire une carte comme une carte de resto, la carte géographique. On lit la carte des vins en général, mais nous, c'était la carte des terres, quoi. Et donc, on avait envie de les mettre dans des verres, et puis après, c'était trop compliqué. Mais j'en ai quand même mis un, parce qu'il était rouge, et du coup, ça établissait comme si on faisait une journée de dégustation, voilà, pour oublier à d'autres sens que simplement la vue ou ne serait-ce que la lecture. Et en fait, ça, j'espère en faire d'autres choses. Et tous ces échantillons, ils sont numérotés, bien coordonnés, tout ça. Et en fait, je peux les remettre dans une stratigraphie générale et je pense qu'elle sera exposée au centre d'un musée national de préhistoire, quelque part. Voilà, ça sera notre stratigraphie, je l'espère.
Pour nous, ce projet-là, il essaime des choses, il essaime des graines, il plante des graines et il fait germer, il met en lien des initiatives et des curiosités et des idées qui existent déjà sur les territoires et il fait aussi émerger des choses nouvelles qui sont complètement autonomes de nous, indépendantes de nous et notamment ce petit jeu qui a été créé donc par Chloé Cruchaudet, qui est une autrice de bande dessinée, illustratrice, qui a marché avec nous l'année dernière sur le premier tronçon dans les Cévennes, et qui, suite à sa marche, nous l'a pas forcément dit au départ, mais a créé un petit jeu qu'elle a autoproduit avec des cartes, des petites cartes avec des consignes assez poétiques, et qu'elle a eu envie de partager peut-être a posteriori avec d'autres marcheurs, et que d'autres gens s'en emparent et puissent peut-être eux-mêmes y jouer, et eux-mêmes créer leurs propres cartes. Faites trois pas. Soulevez votre chaussure et dessinez ce qui se trouve sous votre pied. Cherchez autour de vous l'élément le plus inintéressant, le plus moche, et décrivez-le comme si c'était une chose extraordinaire.
Il y avait ce jeu des 1000 ans. En fait, Georges, au départ, nous a dit on voyage jusqu'à 38 000 ans. Dans l'histoire. Donc le jeu, ce sera de trouver 38 000 ans les oiseaux dans le ciel. Et en fait, on a vraiment été jusqu'à 38 000 ans, c'est-à-dire qu'on a vu notre dernier 1000 ans juste avant d'arriver à la fin. Et donc ça a porté notre regard vers le ciel, mais aussi beaucoup Agnès était très attentive aux insectes, donc on était dans le regard ouais, ciel, sol, forêt.
Bonjour, donc je suis Mathilde Menant, je suis co-directrice de l'association des Clous. Alors l'association des Clous, à la base, c'est une compagnie de cirque contemporain et on est installé dans le Lot depuis 2010. Depuis 2014, on a une vraie volonté de s'implanter sur le territoire là où on vit et là où la compagnie est implantée. Parce qu'il se trouvait qu'on travaillait beaucoup à l'extérieur, on faisait souvent beaucoup de kilomètres pour aller jouer nos spectacles et qu'on rayonnait assez peu finalement et puis qu'on était assez peu visible sur le territoire où on vivait. Donc c'était important pour nous de se poser la question de comment on habite le territoire en tant qu'artiste. Donc il y avait vraiment cette question de comment on habite ici. Le terme habiter est important si on parle ensuite de marcher depuis la nuit des temps. Et du coup, le copeau est né il y a assez peu de temps finalement, parce qu'on a acquis les bâtiments en fin 2021. Il y a eu une énorme énergie avec une cinquantaine d'habitants du territoire. On s'est dit, en mai 2022, on fait notre festival Plantella qui existe depuis 2016. On le fait ici, dans ce lieu, qui n'était pas du tout fait pour faire un lieu de spectacle, qui était d'anciens ateliers de charpente. Ça fait 2 ans que ce lieu est ouvert et qu'on y fait régulièrement des choses. Donc ça peut être de la résidence artistique, on reçoit beaucoup d'artistes en résidence qui viennent travailler sur leur prochain spectacle ici. Ça peut être des spectacles en diffusion avec notre festival Plantella, on a une guinguette au mois de juillet. On fait souvent une petite fête un peu différente l'hiver. Et puis à ce projet Marché depuis la nuit des temps auquel on tient particulièrement parce que en fait on s'est rencontrés il y a 3 ans, en 2022 pardon. Ils sont venus faire une première résidence ici où ils nous ont appelés en nous disant voilà, ils nous ont expliqué le projet de marché entre Chauvet et Lascaux. Et avec cette histoire d'espace-temps qui est quand même très important dans leur projet et qui nous parlait beaucoup sur justement comment on ralentit et comment on habite un peu mieux les endroits sur lesquels on passe. Et qu'on ne fait pas que passer, mais qu'on rencontre des gens et qu'on y crée des projets à chaque fois. Donc ça nous parlait bien, même si on sortait beaucoup du cirque, alors que nous, c'était vraiment notre endroit de travail depuis des années. Mais ça nous plaisait de réfléchir un petit peu différemment et de se dire, tiens, ce serait quoi le lien entre le copeau et notre envie, nous, d'habiter cet endroit de manière artistique et cette compagnie qui propose un projet de découverte un projet un peu expérimental d'ailleurs, parce qu'on en voit très peu des projets comme ça qui sont assez difficiles à définir, mais c'est ce qui nous plaisait aussi, de ne pas pouvoir y mettre vraiment un cadre, mais que ce soit vraiment ces rencontres-là qui créent le projet. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ils sont venus en résidence fin 2022, du coup, pour rencontrer un petit peu les forces vives ou les habitants ou les énergies qui pouvaient se passer ici sur ce territoire pour préparer leur marche, leur première marche qui a eu lieu en 2023. Et du coup, moi, ça, dans le projet qu'ils avaient, moi, ça faisait résonner chez moi beaucoup de choses autour de la paysannerie, parce qu'ici, il y a beaucoup de paysans qui imaginent des nouvelles manières de travailler ensemble. Donc en fait, moi c'est vrai que entre le projet dont me parlaient Georges et Pauline, de marcher depuis la nuit des temps, et puis cette foncière qui est en train de naître autour d'une ferme, je me disais que ça pouvait être des énergies qui pouvaient se croiser, en tout cas des projets qui pouvaient résonner. Et donc on est allé cette semaine-là, quand ils sont venus en 2022, on est allé visiter pas mal de fermes avec des projets différents. Il y a une autre ferme qui n'est pas très loin, qui a un projet aussi culturel sur... qui est agriculturel et culturel. Enfin voilà, du coup tout ça c'était des énergies un peu où on se disait, bah tiens, il y a des nouvelles formes, d'imaginer la paysannerie, des nouvelles formes, et comment aussi on peut lier les deux, culture et agriculture. Donc voilà, donc c'est cette rencontre est née comme ça, et voilà. Et puis on a beaucoup de plaisir à accueillir cette équipe, parce qu'on est beaucoup dans cette réflexion de comment on habite, comment on habite la terre, comment on habite nos territoires.
Le chemin de marché depuis la nuit des temps prendra fin le 21 juin. Sur la terrasse de l'abri sous roche du Musée national de préhistoire aux Aizy en Dordogne. Mais ce projet ne fait que commencer. Marcher depuis la nuit des temps est une invitation à réfléchir, méditer, sur le vivant, sur l'art et surtout sur l'importance des rencontres. Merci à tous les participants, organisateurs, marcheurs et animateurs d'avoir pris part à ce projet. Épisode réalisé par Morgane, en collaboration avec Quentin de Fréquence 7, Léo de Radio Bartas et Antenne Doc.
Marcher depuis la nuit des temps, une fabrique du sensible entre Chauvet et Lascaux. Une série de reportages réalisés par Fréquence 7 à Aubenas, Radio Bartas à Florac et Antenne Doc à Figeac.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi pour parler d'abeilles et du vent dans les branches, tout un programme. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. Ciao.
On a évité les embouteillages. T'as été sage pendant le voyage. On a bien rigolé autour d'un casse-croûte. Dégueu, presque dégueulé de la station d'autoroute. J'ai dû me laisser surprendre. Et déjà le mois de septembre. T'es endormi avant le péage. Tu t'es pas réveillé et malgré l'orage, j'ai conduit tranquille avec à la radio un reportage sur les bidonvilles de Rio. J'ai dû me laisser surprendre. Et déjà le mois de septembre. Plage, un tour de montgolfière, la tête dans les nuages. Ta collection de pierres et de petits coquillages, jouant avec la lumière dans nos sacs de couchage. J'ai dû me laisser surprendre. Et déjà
mer à décharger tes bagages. T'as recherché dans tes affaires ton livre de coloriage. Au moment de se quitter, on s'est à peine dit au revoir. T'étais tout excité, on se revoit dans deux semaines, tu me rappelles ce soir.